France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Vous. Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Il y a du mauvais goût, dit-il, à faire des films dociles et calmes dans un monde pareil. Même si ces deux films ce matin sont très loin l'un de l'autre, ils partent tous les deux d'une colère. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Le cinéma doit s'approcher du feu, m'avait-il dit à Cannes. Depuis, cette phrase résonne toujours. Bonjour Nadav Lapid.
Bonjour, bonjour.
Oui, très proche des flammes avec ce film Yes, oui. Le parcours de Y, un artiste israélien qui doit mettre en musique un nouvel hymne national appelant à l'extermination de Gaza. Et cette question, c'est quoi être être bon dans un monde de plus en plus mauvais. À vos côtés, l'ex-amoureuse d'Y, la femme des mots, pas du corps. Bonjour Naama Price.
Bonjour.
Actrice, et quelle actrice ! La colère et la tristesse après la mort d'un proche, à l'origine de ce film Nino. Bonjour Pauline Loquès.
Bonjour.
C'est votre premier film, 3 jours avant sa chimio, le parcours d'un jeune Parisien vers la lumière. Bonjour Théodore Pellerin.
Bonjour.
Nino, c'est vous et votre sensibilité et votre force dans ce rôle. Oui, et Nino, tous les deux sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties de la semaine, de Sierat à Shaun le Mouton. Tout est dit, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
T'as sept ?
שאני במשבר אישי אמנותי מוסרי בגודל של הער בעומק של מכתש.
Un premier aperçu fiévreux de votre film, Nadav Lapid. Oui, un oui après tous vos précédents films qui disaient plutôt non. Le oui d'un artiste israélien dans le déni du réel, je le disais, pour composer la musique d'un hymne qui prône l'extermination à Gaza. Après le 7 octobre, Nada, vous êtes à Paris, vous êtes choqué, et vous retournez 2 semaines après en Israël, et vous vous apercevez qu'avec les artistes, c'est un peu l'union sacrée là-bas.
Oui, oui, le 7 octobre, j'étais à Paris, enfin, on était à Paris, on était en train de fêter le 5e anniversaire de notre fils, le fils de Naama et moi, qui s'appelle Noar, et du coup, bon, 7 octobre, le choc, évidemment. Et moi, ça m'a pris. Je me suis posé. Enfin, j'étais déjà en pleine écriture des oui. Et au début, je me suis posé à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert le cinéma, à quoi ça sert de faire des films, etc. Puis, petit à petit, je me suis un peu. Enfin, j'ai décidé d'aller en Israël pour voir si ça servira à quelque chose de faire ce film et à quoi il doit ressembler. Et là, j'ai vu un pays. Bien évidemment, dans un état de choc, de post-trauma, de tristesse. Moi aussi, j'étais triste, j'étais choqué. Et en même temps, ça me paraissait évident qu'on va aller, qu'on est monté sur l'autoroute pour rouler en vitesse de 1000 km/h vers les pires, vers une vengeance sans borne, vers une vengeance d'une taille qu'on a jamais vue, au moins là-bas. Et là, c'est le monde qui écrit, qui réalise votre film. Vous devenez une forme de tuyau pour ce que vous voyez, ce que vous sentez autour de vous. Et votre plateau, c'est la vie, c'est le monde, c'est le pays, c'est la guerre.
Dire oui, c'est un bon argument narratif, finalement, presque plus fort que dire non, comme vous l'avez fait précédemment. Ce type dit oui.
Je pense que dire oui, c'est oui. Heureusement ou malheureusement, c'est le mot du moment, c'est le mot du présent. Je pense qu'Y, le héros du film, c'est l'homme du présent. Je pense que le cinéma, c'est l'art de héros, de protagonistes qui disent non. Tout le cinéma américain est basé sur des héros qui disaient non. Oui. On connaît John Wayne qui tourne son dos au village en disant non, tous les westerns. Mais je pense que le monde change. Et que le cinéma doit toujours, 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 ça c'est un peu ma religion, doit toujours parler du présent. C'est pour cela qu'il a été inventé, pour parler du présent. Et des années de résistance, d'une certaine manière, ont échoué. Enfin, qu'est-ce qu'on a reçu ? On a reçu Netanyahu, on a reçu Trump, à quoi ça, à quoi ça ? Donc je pense que pour les mieux et pour les pires, il faut suivre le moment. Mais le moment, c'est de dire oui à la vie. Mais quand, évidemment, quand on dit oui à la vie, on finit par dire oui aussi à l'horreur.
Quand on est cinéaste israélien, on ne peut pas faire autre chose que de parler de cela. Vous êtes sans cesse en train de vous interroger. On a l'impression que chaque film est presque un adieu à votre pays.
Avec chaque film, je jure que ce sera le dernier film. Vous pouvez pas vous imaginer. En fait, j'ai perdu ma crédibilité. Donc là, je ne le dis plus. Mais par exemple, ce film-là, oui, qui existait dans une autre version, mais qui n'est pas finalement si loin que ça.
Un peu romantique, cette version. Vous avez dit à la productrice française, Judith Louis-Lévy, tu vas voir, c'est peut-être même un peu gnangnan, un peu niaiseux.
Moi, j'ai les dons d'avoir zéro conscience. en finissant le scénario, oui, je l'ai envoyé à la productrice en lui disant, vous allez voir, cette fois-ci, c'est un peu sucré, c'est une comédie romantique et tout. Bon, nos auditeurs pourront aller juger la dose du sucre.
C'est un peu Salor et Lula, d'ailleurs, un petit peu au début. Dans cette fête, le film démarre sur une fête, on peut dire, décadente, démentielle, au milieu de laquelle donc Y et sa femme Yasmine, elle danse et lui performe. Et puis, le film se poursuit plus mélancoliquement, plus calmement, dans le désert, avec l'ex-amoureuse d'Y. Je vais vite, là, par rapport au film qui dure 2h30 et qui prend vraiment son temps par rapport à cette situation complètement folle. Il n'y a pas deux parties, c'est qu'il évolue, ensuite le personnage part dans le désert pour essayer de composer la musique de cet hymne et rencontre son ex-compagne qui est vous, Naama Price, l'ex-amoureuse, et elle archive les vidéos des tueries du 7 octobre et elle fait état des barbaries commises. On va vous écouter en hébreu et en français, Naama.
Deux enfants, des petits frères, 7 à 10 ans, cachés avec leur père dans la chambre forte. Je n'ai pas trouvé de bonne traduction pour nos chambres fortes. Alors ils ont mis le feu pour les faire sortir. Ils ont abattu le père, le nez perdu, un œil. Ils sont entrés, ont ouvert le frigo et ils ont dit « On a soif, apportez-nous du coca ». Et aux enfants dont les parents ont été assassinés, ils ont dit « Vous inquiétez pas, on ne tue pas les enfants ». Et ils ont laissé avec les cadavres. Alors un garçon de 9 ans appelait la police. « Papa et maman sont morts ». Les flics répondent « Tu ne fuis pas de moi ». Et un fillet dont les parents ont été tués, on la vise avec un fusil et elle dit « J'ai l'école demain ». Et les enfants tuaient celui qu'ils ont brûlé avec son père, retenant la poignée de la chambre forte. L'homme tremblait à cause de son Parkinson. On a mis le feu et ils ont pissé sur des chiffons. Ils les ont collés à leur visage pour protéger de la fumée. Et une fente de l'humour a prémis à la fumée de ses vécués. Et la femme de 80 ans qui s'est fait passer pour morte sur son lit, quand on pensait que tout était fini, on lui a dit de sortir. Quelqu'un a surgi et lui a tiré dessus.
Nadav, on va revenir sur cette présentation, mais Naama, c'est pas anodin de jouer ça. Vous êtes israélienne. Actrice, ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Parce que ce monologue est fou, il va encore plus loin après.
Alors, travailler sur ce rôle et ce monologue, c'était... J'ai essayé de trouver le chemin pour comment je peux approcher. Parce que d'habitude, je travaille... tôt le matin, pour être honnête, Mais c'était tellement dur, parce qu'après deux, trois phrases, j'étais complètement cassée, pleurais. Et j'ai dit à Nadav, je ne sais pas comment je dois travailler sur ce texte. Après, quand la guerre était avancée, j'ai vu aussi plein de vidéos qui viennent de Gaza. Et il y avait quelques balances, quelques forces contre le témoignage de cet octobre.
Oui.
Et je pense que comme ça, je trouvais des façons pour approcher le texte et avoir le sentiment, mais encore être très, très précis et très...
C'est un catalogue,
direct.
Oui, c'est oui. ça.
L'horreur de Gaza a permis de dire l'horreur du 7 octobre.
Oui, je crois que ça m'a donné de force, parce qu'au début, on était en choc, c'était tellement dur, voir les images, et quand je travaillais au début, j'ai vu plein de vidéos terribles qui étaient passées en Israël. Et moi aussi, j'avais l'impression que le pire va venir d'Israël.
Nadav Lapid, il fallait absolument intégrer ce contrepoint dans le film qui critique beaucoup ce pays et ce régime surtout.
Oui, moi je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire il fallait, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le film qui à la base qui se révolte contre une manière binaire de parler de la réalité, comme si la souffrance des uns vient sur le compte de la souffrance des autres, etc. Après, je dois dire, le film a été montré une fois en Israël. Et au Festival de Jérusalem, avec des ministres du gouvernement qui somment le festival de déprogrammer les films, avec beaucoup de pression politique, etc. Et des gens sortaient de la projection, ils étaient secoués, mais il y avait eux qui sont venus me dire on a eu parfois des problèmes avec les films, mais ces monologues de 7 octobre est quand même inoubliable. Et à ces gens, je dois dire, ce que je leur ai dit, c'est essayer d'imaginer quand même quelle aurait été la durée d'un monologue qui aurait détaillé les crimes qu'on est en train de faire à Gaza.
Ouais. Ça sera une heure et demie.
On aurait besoin en
proportion.
Oui,
en équivalence.
Un mois de monologue au moins, je pense.
Qui sommes-nous pour parler de ça? Effectivement, c'est ce qu'elle dit un peu entre les lignes à la fin. Elle dit, vous ne comprenez pas ce que vivre à Gaza signifie, mais vous ne comprenez pas ce que signifie être israélien. C'est vrai que parfois, à l'étranger, ailleurs, on en parle, mais il faut être de là-bas pour en parler.
Oui, enfin, je pense que être israélien, c'est grandir, grandir à l'intérieur d'une certaine... Enfin, certaines héritages, à l'intérieur d'un certain héritage, une certaine des circonstances, d'une mode de vie qui n'est pas toujours compréhensible
de
l'extérieur.
Mais en voyant, c'est intenable cette situation. J'ai vu le film une deuxième fois qui a pris encore plus de relief. La situation là-bas est intenable.
Moi, je ne me suis pas imaginé. Donc je commençais l'écriture, la réécriture du film quelques semaines après le 7 octobre 2023. On a démarré le tournage le 7 octobre 2024. Moi, je ne me suis jamais imaginé, et je pense que je ne suis pas quelqu'un de naïf, moi je ne me suis jamais imaginé qu'alors qu'on sera à la fin de la promotion, quelques jours avant la sortie, la guerre, le massacre, le génocide, c'est pas seulement qu'il sera encore là, mais qu'il va encore s'intensifier. Et moi, quand j'y pense, je me dis, j'ai zéro et attente du gouvernement psychopathe israélien. Mais ce qui me choque, moi j'étais convaincu que le monde va mettre fin à ça. Que le monde, et le monde, ça veut dire par exemple Emmanuel Macron. Et moi, je suis choqué, je suis terrifié par cette indifférence. Et par cette inertie, Je me demande qu'est-ce que les Français pensent sur leur président qui laisse cette horreur se dérouler et qui aura, comme beaucoup d'autres, je pense, sur sa conscience cette catastrophe.
Malgré tout, il va y avoir la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron le 23 septembre à l'ONU.
Oui, mais c'est pas assez.
Nama.
Non, c'est pas assez. Il faut prendre des actions plus fort.
Il y a beaucoup d'acteurs qui ont refusé de venir sur votre tournage.
Il y avait
beaucoup... Et des techniciens.
Énormément de techniciens, oui. Et beaucoup d'acteurs qui ont refusé. Certains ont refusé puisqu'ils s'étaient opposés, même pas au film, je pense, ils s'étaient opposés à quelque chose que je représente là-bas, suite à mes films précédents. Et d'autres avaient peur. Moi, je garde encore chez moi un texto d'un acteur assez connu en Israël qui m'a écrit « Oui, je rêve depuis des années de jouer dans un film à vous. Si seulement vous auriez pu tourner ce film dans 10 ans. »
Et l'hymne national, il a vraiment existé parce qu'on voit ce clip absolument terrible à la fin dont vous avez caché les yeux des enfants. Il est chanté par des enfants, cet hymne anti-Gaza.
Oui, donc... Comme j'ai raconté auparavant, moi je suis rentré d'Israël avec cette notion d'une catastrophe qui est en train de s'actualiser. Mais j'ai cherché, comme on cherche toujours, j'ai cherché au-delà des mots, le spectacle audiovisuel de l'enfer. Et quelqu'un, un ami, m'a envoyé par WhatsApp cette vidéo, cet hymne. Donc, une chanson extrêmement, extrêmement connue en Israël, dont les paroles...
Yitzhak Rabin aimait beaucoup.
Oui, Yitzhak Rabin a adoré. Dont les paroles ont été réécrites pour dire les louanges de l'extermination totale et absolue des Gaza et des Gazaouites. Et qui a été vraiment reproduit par une association pour monter la morale du peuple. Et eux, ils ont filmé des enfants qui chantent ça. Ils ont nommé ça la chanson de la génération de la victoire. Et le message est évident, le message que cette génération-là d'enfants va plus se contenter de petites victoires ou de petits triomphes, et ils vont aller jusqu'au bout, et ils vont aller jusqu'au bout de l'extermination. Et moi, je trouve, on associe des enfants à l'espoir...
Et malgré tout, dans le film, il y a une espèce de sorte de petite rédemption vers la fin. Il y a quelque chose sur la route, on n'en dira pas plus. Faire du cinéma, c'est s'approcher du feu. Je répète cette phrase qui m'a tellement marqué, que vous avez prononcée, et vous vous êtes vraiment approché du feu avec ce film qui s'appelle Oui, et qui sort mercredi prochain.
Alors, on va revoir les images ensemble. Et ensuite, je vous expliquerai le protocole. Donc voilà, Là, on voit clairement la masse sur la paroi latérale de l'oropharynx. C'est donc ce qu'on appelle un carcinome épidermoïde, qui a pris la forme d'une lésion ulcéro-bourgeonnante sur la loge amygdalienne droite. Donc on voit là que ça déborde sur le voile sans toutefois passer la ligne médiane, et ça, c'est plutôt rassurant pour nous. Ça va, je veux pas trop vite. Vous êtes pas obligé de retenir tous les termes.
Non, pardon, je crois qu'il y a une erreur, en fait.
Comment ça ?
Je sais pas, une sorte de confusion de dossier.
Nino apprend au hasard d'un rendez-vous administratif à l'hôpital qu'il est atteint d'une grave maladie, d'un cancer, on peut dire le mot. C'est le point de départ de votre film, Pauline Loquesse. Nino, c'est vous, Théodore Pellerin, sans cesse à l'image. À l'origine, je disais ça en ouvrant l'émission, à l'origine de cette histoire, il y a la maladie d'un proche, un cancer très agressif, il s'appelait Romain, il avait 37 ans. Il fallait donc écrire quelque chose pour exorciser. D'ailleurs, ce film devait être un livre au départ, non ?
Oui, en fait, j'ai ressenti à sa mort une colère, mais une colère sourde, et on ne sait pas contre qui la diriger, en fait, à part l'ironie du sort, c'est-à-dire qu'on peut en vouloir à personne. Et j'étais quand même très habitée de ça, donc je me suis mise à écrire pour exorciser, pour essayer de me réconcilier un peu avec la maladie, avec la vie. Et c'est un récit tellement intérieur que pendant un moment, je me suis dit, ça va peut-être plus faire un roman. Et puis après, j'ai rencontré Théodore Pellerin, je me suis dit, non, ça va faire un film.
Ah, c'est un garçon-film, c'est un acteur-film, quoi, pour vous.
Non, c'est-à-dire que le projet était lancé, mais je doutais quand même que, voilà, qu'il fallait une incarnation qui soit capable de transposer tout ça.
Dans votre film, le cancer est moins sérieux que celui que votre proche a connu. Il va pouvoir en guérir, enfin, c'est ce qu'on lui promet. Est-ce que c'est une façon de réparer la mort de votre ami ?
Oui, bien sûr. En tout cas, comme j'étais hantée par cette figure de jeune homme, je me suis dit, j'ai plongé dans la fiction et je me suis dit, ben, je vais sauver un personnage, à défaut d'avoir pu sauver quelqu'un dans la vie. Donc j'avais besoin d'autres récits aussi, puis me dire, la maladie ne mène pas toujours à la mort, ça mène aussi parfois à de la résilience, de la pulsion de vie, un nouveau départ. Donc j'avais envie d'explorer pour voir si c'était possible.
Parce que c'est un sujet un peu lourd, un peu pathos en général. Donc là, il fallait que ce garçon découvre quelque chose à l'occasion de cette déclaration de maladie.
Oui, c'est lourd, c'est pathos parce qu'on en fait aussi par les représentations qui existent aussi, puis nos propres fantasmes qu'on a aussi sur le cancer, la chape de plomb qui arrive et puis l'horizon qui se bouche. Il y a plein d'autres histoires et plein d'autres récits de vie. Moi, j'avais l'impression que c'était pas un jeune homme déjà dans une grande pulsion de vie, c'était plutôt un jeune homme avec des ailes un peu coupées. Mmh. Donc je me suis dit, ah, c'est intéressant, s'il lui arrive quelque chose comme ça, d'une grande gravité, est-ce que pour lui, ça va faire l'effet inverse ? Ça va finalement lui créer de la lumière, un sursaut, quelque chose ?
Donc vous avez choisi ces trois jours, hein, entre parenthèses, avant sa première chimio. Que faire de ce temps mort? Comment le traverser? Donc il faut trouver quelques épreuves sur le chemin, quelques rencontres aussi.
Oui, mais en fait, je me suis laissée guider vraiment par lui et par son errance à l'écriture. C'est-à-dire, je me dis, alors à qui on parle quand on vient d'apprendre quelque chose comme ça? Certainement qu'il va aller chez sa mère. Et puis donc en fait, hop, puis en fait, il n'arrive pas à lui dire. Et puis après, peut-être qu'il va aller voir ses amis. En fait, il y avait un processus comme ça, assez naturel, instinctif, de suivre un personnage dans sa sidération, son errance. Donc
et dans une ville.
Et dans une ville.
Justement, c'est un truc de scénariste, ça. Oui. Mais c'est bien de perdre ses clés.
Parce que
tout d'un coup, voilà, vous le mettez en dehors. Non, mais c'est très important, quoi, finalement.
Bah, je me suis dit, c'est le genre de
personnage. L'homme seul dans la foule.
Voilà, c'est le genre de personnage, c'est le genre d'être humain, s'il rentre chez lui, il n'en sort plus, quoi. Voilà, il se met sous la couette et il envoie des petits textos. Donc je me suis dit, il faut le propulser dans la ville. Ah, il a perdu ses clés, donc il est obligé de se connecter ou pas avec les autres, ou d'être en confrontation ou en connexion, ouais.
Nino attaqué à la gorge, vous le dites à l'endroit de la parole, celle justement qui n'arrive pas à délivrer à sa mère, qui est incarnée par Jeanne Balibar.
Il faut que je parle d'un truc.
Ouais.
Je dois commencer quelque chose.
Ah, c'est bien ça.
Pour moi. Pour. Voilà, pour être bien, quoi.
Ouais.
Bon, c'est un truc pour... En fait, c'est pour mon corps, pour être mieux dans mon corps, pour être... Pour
ah, mais
être,
ça, c'est important.
Pour être bien, ouais. Et donc, c'est possible que ça prenne un peu de temps, que ce soit un peu long, mais c'est que pour être mieux, tu vois, dans mon corps.
Tu vas faire une transition ?
Quoi ?
Tu vas faire une transition ?
Non, c'est pas ça.
Pardon, excuse-moi, mais... Ça arrivait à Gabriel, avec sa fille, et... Ça, je me suis dit que tu fais comme on t'aime et tout, mais j'aurais eu. Il aurait fallu que je m'habitue.
Oui, je comprends. C'est pas. C'est pas ça.
Bon, bah alors, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as?
Non, c'est que j'ai fait. J'ai fait des examens. Et j'ai. Eu une dépression.
T'as une dépression.
Voilà.
Il fallait bien une actrice pareille pour un second rôle et qui s'impose immédiatement, tout comme Mathieu Amalric et cette merveilleuse rencontre surréaliste au bain-douche. Alors, Théodore Pellerin, c'est quoi de jouer ça? C'est un sacré rôle, je disais tous les plans, mais surtout sans pathos et en flottant parfois.
C'est quoi de jouer ça? Je crois que c'est surtout d'essayer de suivre Pauline. Pour moi, en tout cas, c'était d'essayer du mieux possible d'être à la hauteur de son écriture qui m'avait bouleversé dès la première lecture. Avant de rencontrer Pauline, avant de faire l'audition, peut-être un an ou deux avant de tourner le film. Vous l'avez dit déjà en ouvrant, mais c'était très très clair pour moi dès la première lecture que c'était la personne qui avait écrit ce texte, ce scénario, l'avait écrit par un besoin vital. C'était pas une idée de scénario que la personne avait cherché. Ça, c'était vraiment un jet de vie pour essayer de combler une grande présence de mort. Donc, pour moi, jouer ce rôle-là, c'était essayer de, comment dire, voilà, d'accompagner Pauline du mieux qu'elle le souhaitait, être à la hauteur.
Exprimer beaucoup sur le visage, parfois des sourires teintés de gravité ou de mélancolie.
Bah, exprimer sur le visage, je pense pas que c'est quelque chose auquel on pense. C'est plutôt que, déjà, à l'écriture, le silence est un peu est omniprésent et est central dans le film. Et pour le personnage, je pense que c'est, vous l'avez nommé aussi, mais bon, le cancer est à la gorge, donc c'est une incapacité de parole. C'est un personnage qui ne sait pas dire, qui est en retrait du monde, qui est en dehors du monde, qui ne sait pas vivre. Et donc, la parole, la jouissance, parce qu'il doit aussi prendre un échantillon de sperme pour avant que le traitement débute.
Ouais, c'est très important ça. Oui. C'est une autre course contre la montre.
Oui, tout à fait.
Très important. Et c'est bien de faire vivre à un homme.
Oui. Hein, c'est plutôt ça m'amusait beaucoup.
L'horloge une horloge biologique sur 3 jours.
Ben oui, je me disais, c'est vrai, ils ont toujours 40 ans pour faire des enfants. Là, il a 3 jours. Et ça m'amusait, un côté un peu sadique sur ça. Je me suis dit, bon ben voilà, on va lui dire, c'est 3 jours pour remplir le petit pot, sinon c'est fini.
On a entendu votre accent un petit peu pointé, Théodore. Vous êtes un enfant de la télé québécoise, paraît-il. Hein. Vous avez commencé assez tôt à faire ce métier.
À 16 ans, ben, en enfant. Dans ma tête, je suis vraiment un adulte à 16 ans. Donc
oui.
Donc, je sais pas.
Non, mais vous avez beaucoup joué. Ça vous a appris beaucoup de choses, la télé?
Ça m'a appris beaucoup de choses. C'est devenu, comment dire, j'ai arrêté l'école à 16, 17 ans. Donc travailler, jouer, c'est devenu mon rapport premier au monde, ma façon d'apprendre, ma façon d'être dans la rencontre, puis dans la rencontre avec moi-même dans un jeune âge adulte. Donc oui.
À 19 ans, vous êtes dans le film de Dolan, Juste la fin du monde. Vous jouez Vincent Cassel, le jeune.
Oui.
Et vous avez un rôle complètement à l'opposé de celui-là, dans celui de Jacques de Bachère, l'amant de Karl Lagerfeld, qui est complètement extraverti.
Oui, là c'est vraiment...
Dandy provocateur.
C'est un dandy provocateur et c'est surtout un personnage qui fait de lui-même une fiction. Donc c'est un personnage qui joue beaucoup et c'est souvent des personnages qui m'intéressent parce qu'on a tous ça, d'une certaine façon, une part de costume qu'on met. Et c'est ce que je trouve intéressant souvent dans la fiction, c'est de trouver quel costume le personnage met pour après trouver les brèches de vérité. Mais Nino, c'est vraiment d'un tout autre ordre, parce que c'est un personnage qui est dénudé, ouais, qui n'est pas du tout non. De ouais. Costume, qui est vraiment dans un... sa plaie est ouverte au monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il ne sortirait pas de chez lui s'il n'avait pas perdu ses clés. Ouais. Donc c'était un autre exercice que j'aurais jamais pu faire avec quelqu'un d'autre qu'avec Pauline, qui pendant...
Tu lui as dit surtout ne fais rien.
Ne fais rien.
Parce qu'il adore travailler, c'est un acteur de performance aussi, il est très impressionnant. Non, là, je lui ai dit, non, j'ai tout, là, je vois tout sur toi, il n'y a pas besoin,
non,
je vois tout dans tes
yeux. Il faut aussi travailler sur le rien.
Ah oui, tout à fait, c'est un autre travail.
C'est déjà beaucoup.
Quoi. Oui.
Rien,
mais je lui ai filé la nausée de Sartre, il a plongé là-dedans, et hop, il s'est plongé dans le néant.
Il n'y a pas de suspense, vraiment, dans le film, ça qui est beau, il y a des surprises, il y a des petits accidents, il y a des dérapages, jusqu'à cette fête, ce point de bascule, son anniversaire surprise, où il va enfin peut-être réussir à se confier à son copain, qui est lui, dans une autre réalité, c'est William Lebgill.
Tu sais, il y a un truc que je me dis depuis un moment, là, c'est que parfois, faut pas trop s'écouter non plus. Genre, j'écoutais un podcast l'autre jour, je sais plus sur quoi c'était exactement, mais il citait Alain, et il avait une très bonne phrase. Je croyais qu'il m'a vraiment marqué. Après, c'est tout simple, hein, t'attends pas non plus à un truc délirant, mais... Le mec, il disait ça, il disait « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. C'est tout. » Alors bon, ça peut paraître être une blague, mais moi, je trouve ça profond.
Non, ouais.
Tu vois.
Alain qui ?
Alain, c'est un philosophe. En gros, faut faire les choses, quoi. Ça sert à rien de se prendre la tête à l'infini, c'est inutile. Alors tu vois, pour la fête, moi je me suis trop pris la tête avant de savoir si j'allais la faire ou pas. Alors je me disais, si jamais tu viens pas, ou alors si jamais tu m'annules au dernier moment, parce que bon, je te connais un peu, ou alors s'il y a personne, ou je sais pas s'il pleut et que d'un coup tout le monde se déchauffe, enfin bref, je me suis posé 1000 questions, c'était insupportable. Et au final, fallait juste que je me lance. C'est tout.
Le petit égoïsme de la jeunesse, Pauline Loquesse, vous dites un truc très intéressant. Vous dites une génération de jeunes urbains très cérébraux dont les liens sociaux se nouent beaucoup par la parole.
Oui, beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que leurs problématiques sont un peu risibles. Ils savent pas trop à quoi s'accrocher, en fait, ces jeunes Européens-là. Donc le monde est en train de brûler autour. Et puis eux, ils essaient de trouver du sens. Alors le pire qui peut arriver, c'est comment est-ce que je vais organiser cette fête-là. Et puis là, ils passent toute la première partie du film. Ino a essayé de dire. Et puis en fait, quand il y arrive, il se rend compte de la limite des mots. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on le dit que la réponse en face est à la hauteur. Je veux dire, les mots sont assez vains pour finalement réconforter quelqu'un. Donc dans toute la deuxième partie du film, finalement, c'est un autre mode de communication qui passe par le toucher, le regard. Et c'est vrai que c'est des générations qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va au café, on discute, et parfois on n'atteint pas l'essentiel comme ça.
Vous êtes d'accord, Théodore? Oui. Avec votre génération?
Ah, je sais pas.
Il parle pas beaucoup, je sais pas, beaucoup. Un bon exemple.
Ah oui.
Oui.
Non, mais Théodore est fils de danseuse, chorégraphe, donc c'est aussi un autre rapport au corps, je pense, qui t'a été donné et à la connexion.
C'est bien, elle fait des questions pour moi, c'est super. alors, c'est
non,
pas. Alors, c'est
très, très bonne pour les questions, d'ailleurs, j'essaie d'apprendre d'elle à poser des questions, parce que vraiment. Puis j'essaie d'inculquer ça à ma mère aussi. Je lui dis, tu sais, tu peux entrer en contact avec des gens, parler, poser des questions. Puis elle est très très surprise de ça. Donc, et moi aussi d'ailleurs.
Voilà, ces deux films sortent mercredi prochain. Oui, de Nadav Lapid et Nino de Pauline Loques. Merci à vos deux acteurs, Naama Price et Théodore Pellerin, d'être avec nous ce matin. Vous restez. On va parler. Après un très très grand musicien qui s'appelle David Byrne, qui chante What is the reason for it, qui pourrait résonner avec votre film Nadav, et on se retrouve après. Love is cold, love is hot, love can make you feel a lot like someone.
Christine Masson et Laurent Delmas.
Et ben voilà, on va parler des sorties. On va commencer par Connemara d'Alex Lutz, adapté du livre de Nicolas Mathieu, issu d'un milieu modeste. Hélène, c'est Mélanie Thierry, a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd'hui, elle a la quarantaine. Un burn-out l'oblige à quitter Paris, revenir où elle a grandi entre Nancy et Épinal. Elle s'installe avec sa famille, retrouve le travail et la qualité de la vie en somme. Il retrouve surtout un bel hockeyeur de ses années lycée, qui est incarné par Bastien Bouillon. L'attention était bonne, mais sur l'écran, c'est un programme qui se déploie presque sans surprise, limite artificielle, malgré deux très bons acteurs, aux manettes, justement Mélanie Thierry et Bastien Bouillon.
Oui, ce qui est un peu troublant encore plus, c'est que, vous savez que l'ouverture du festival de Cannes avait été faite par un film d'Amélie Bonin qui s'appelle Partir un jour, oui, avec Bastien Bouillon.
Sujet très proche.
Et sur un sujet et un rôle extrêmement proche, mais dans un registre, pour Partir un jour, léger, parce que c'est une comédie musicale, c'est enlevé, c'est leste, et ça dit les mêmes choses. Alors évidemment, je trouve que Connemara en souffre, c'est-à-dire qu'il y a une certaine lourdeur quand même de propos. Certes, ça correspond à une dimension sociale du livre et que Alex Lutz a pris en compte, c'est évident. Mais j'avoue que la comparaison des deux, moi, en tous les cas, me fait plutôt choisir Partir un jour que ce Connemara, que j'ai effectivement un peu ressenti comme vous, c'est-à-dire un peu figé, un peu, on n'arrive pas tout à fait à rentrer dedans.
Curieusement, dans la compétition cannoise, ce film Renoir de la réalisatrice japonaise Shi Ayakawa, Tokyo 1987, Fuki, 11 ans, vit entre un père hospitalisé et une mère débordée et absente. Un été suspendu commence pour Fuki entre solitude, rituel étrange et élan d'enfance. C'est un joli résumé, mais un film qui nous tient trop à distance finalement, avec l'impression que ça pourrait durer encore longtemps. 2 heures au total, était-ce bien nécessaire?
Ouais, et ce qui est très étrange quand même, c'est qu'il y a 3 ans, on avait découvert un film de cette même réalisatrice, là aussi au Festival de Cannes, dans la sélection à certains regards, s'appelait Plan 75.
Oui.
Et c'était une fable sur l'euthanasie, mais sidérante de radicalité, de singularité. Alors on se disait, bon, bah, le prochain va être dans la même tonalité, ou enfin s'approcher. Mais pas du tout. C'est une sorte, effectivement, de récit très intimiste. L'héroïne a l'âge que la cinéaste avait dans les années 80, c'est-à-dire au moment où se déroule le film. Donc c'est autobiographique à souhait. Et du coup, bah, l'impressionnisme auquel le titre fait référence irradie tout le film avec une succession de scénettes qui sont pas forcément désagréables, mais ça finit par être un peu lisse et sans aspérité. C'est très étrange.
Deux films, deux ambiances. Shaun le mouton, La ferme en folie, ce n'est pas le troisième film Shaun qui sortira, lui, en octobre 26, mais un programme composé du lapin, Alerte au canard, d'un problème épineux et du spécial Les lamas de la ferme. Une merveille d'humour, finalement, faite main avec de la pâte à modeler, le tout sans dialogue et ce Shaun si malicieux.
Oui, c'est vif, c'est malin, c'est plein de références cinématographiques et cinéphiliques, mais on peut tout à fait voir le film au premier degré et en prendre plein les mirettes et s'enthousiasmer, rigoler, effectivement, avec notamment ces trois lamas qui sont abominables, qui sont terrifiants, qui font n'importe quoi, qui sont capables de créer le chaos. Bah, bref, il y a vraiment toujours cet esprit de Shaun et avec un petit message qui n'est pas négligeable, qui est c'est quoi l'autre, qu'est-ce que c'est sa place, comment il fait pour vivre avec un espace, avec un environnement. C'est 47 minutes absolument intelligentes et drôles, évidemment, à voir en famille.
Libre-échange de Michelangelo Covino. Alors que sa femme vient de demander le divorce, Carré court chercher du réconfort auprès de ses amis Julie et Paul. Il découvre alors que le secret de leur amour, qui dure, c'est une relation ouverte à l'extra-conjugalité. À partir de là, une comédie sur les faux-semblants de l'amour libre, la masculinité, la crise de la quarantaine. Un film très inégal, au gag parfois laborieux jusqu'à l'absurde, mais ponctué aussi de drôles de répliques.
Oui, alors on voit bien la filiation revendiquée, assumée avec le meilleur de la comédie sentimentale américaine, hein, Hawks ou Cukor en tête. C'est aussi une variation sur l'amour libre, mais on est bien loin de Jules et Jim de François Truffaut. Il y a vraiment beaucoup de scènes de disputes absolument répétitives, des scènes vues déjà beaucoup ailleurs, avec une volonté d'absurde, là aussi certainement assumée, mais qui tombe souvent à plat. Moi, je trouve que le film est un peu à la peine, et nous, avec.
Première classe, c'est un documentaire de Katerina Gornostei. En Ukraine, maintenir les écoles ouvertes est devenu un acte de résistance, un film derrière la guerre sur l'avenir d'un peuple, Laurent.
C'est tout à fait réussi, parce que c'est dans une sorte de, oui, là aussi de filiation avec ce que peut faire Wiseman, par exemple, sur des documentaires où il y a très très peu, là, Wiseman, il n'y en a aucun, mais là, ici, il y a un peu de commentaires, mais très peu, une année dans différentes classes, de la maternelle à la terminale, dans ce pays évidemment en guerre, et avec les répercussions plus ou moins proches, les cours en visio, les écoles détruites et qu'on a de la peine à reconstruire, tout en mêlant aussi des scènes qu'on pourrait voir n'importe où ailleurs, c'est-à-dire la préparation d'une fêtes de collège, par exemple. Il y a ce mélange-là est tout à fait étonnant et intéressant. C'est un très beau documentaire.
Un autre doc, I Am the Future, qui est signé de Rachel Sisinski, des rêves plein la tête malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Quatre jeunes s'interrogent sur leur avenir et celui de leur communauté, venus de France, Indonésie, Inde et Liban.
Oui, ils ont été invités à l'ONU pour parler de la pauvreté, pour parler de ce qu'ils connaissent hélas le mieux. Ça pourrait être abominable de misérabilisme et de dolorisme, ça l'est pas du tout, c'est absolument passionnant parce que ça mêle la peinture, la photo, la musique, même la fiction. Donc il y a un propos artistique qui est très très fort et qui dit en même temps des réalités incroyables de ces quatre jeunes femmes et hommes et qui sont aux prises avec le réel.
Une place pour Pierrot de Hélène Médigue. Pierrot, 45 ans, est autiste. C'est donc Grégory Gadebois, et vit dans un foyer médicalisé, déterminé à lui offrir une vie digne. Sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d'un endroit mieux adapté à ses différences. Là aussi, c'est une histoire qui s'inspire de sa propre histoire à elle.
Oui, alors l'autisme devient presque un phénomène de fiction et de scénarisation en France. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne sais pas, parce que c'est un phénomène tellement complexe, avec tellement de variétés, tellement de choses très différentes qu'on met sous ce mot valise. Casting impeccable, c'est pas douteux, mais à force de manier les bons sentiments, les chansons de Julien Clerc et le reste, ça prend une dimension qui est un petit peu curieuse, surtout quand on ajoute à tout ça alors une dimension sur l'écologique qui, à mon avis, n'a rien à faire dans ce propos.
Sirat, de Oliver Lache, le cinéaste espagnol, prix du jury à Cannes cette année, au cœur des montagnes du sud du Maroc. Luis et Sergi Lopez, accompagnés de son fils Esteban, recherchent sa fille aînée qui a disparu. Il rallie un groupe de rêveurs en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Un homme perdu, des êtres abîmés et hors système, et cette idée d'exister une dernière fois dans un monde qui s'effondre. Un grand trip parsemé d'épreuves, de grands dangers, une expérience unique de cinéma ultra sensoriel. Je voulais faire, dit-il, un film qui porte ce que le cinéma de genre et le cinéma populaire ont de meilleur, la magie de l'aventure. Elle est à notre portée, à votre portée, accrochez-vous. C'est un sacré voyage. Il y a une reprise, une très grande reprise signée Mankiewicz, qui est Eve, un chef-d'œuvre en noir et blanc, splendide, d'une actrice démente, Bette Davis pour toujours, Margot Channing, cette star du théâtre qui s'interroge sur les sacrifices qu'elle a consentis pour sa carrière. Il faut revoir son monologue dans la voiture, une carrière de femme. En 2025, ça marche encore.
Chef-d'œuvre, avec Anne Baxter aussi et George Sanders, faut le dire. En tout
cas, pour une fois, on a un petit peu de temps pour les cadeaux, ça c'est bien.
Et alors, on va d'abord parler d'un cadeau que nous a fait Nadav Lapid en arrivant, parce qu'il est arrivé avec un livre, Nadav Lapid, description d'un combat aux éditions de l'Œil. C'est sous la direction de Morgane Poquet. Alors, on découvre le cadeau, donc on n'a pas tout à fait le contenu encore, on ne l'a pas lu. Mais
la couverture est super. Voilà. C'est un extrait de la fête, donc, dans Oui, entre ces deux acteurs. Et vous avez fait de longs entretiens pour ce livre.
Oui, c'est pas comme si je me balade dans les mondes avec les livres qui étaient
ici au cinéma. C'est un cadeau.
Au supermarché, je sais pas.
Non, on n'avait pas pris comme ça du tout.
Mais il y a les scènes des fêtes de Oui. Et les scènes des fêtes, les scènes des guerres, les scènes de l'amour.
Très belle iconographie, hein, très belle édition, oui, presque un format DVD, mais en trois fois plus gros qu'un DVD. C'est le premier livre qui vous est consacré?
C'est le premier livre écrit par Morgan Poquet, qui est grande âme de cinéma.
Oui, absolument, tout à fait.
Alors maintenant, on va passer aux cadeaux.
Alors, les cadeaux qu'on vous fait, le premier, Nadav Lapid, c'est pour vous, Grand Tour de Miguel Gomes, le cinéaste. Ah, votre sourire est magnifique, c'est ça. Votre visage s'illumine, on est content.
C'est aussi un ami, j'adore.
Tant mieux, c'est un grand, grand film, un grand road movie amoureux, épique, comme il sait faire, incandescent, comme votre film. Vraiment, on est très, très heureux de vous l'offrir. C'est un joli coffret chez Shellac, voilà. Et puis, pour vous, Nama Press, alors là, La femme à abattre, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film assez rare de Raoul Walsh. Il l'a pas signé, mais en fait, on sait qu'il l'a fait réellement.
L'affiche est sublime.
Sublime, c'est avec Humphrey Bogart, s'il vous plaît. C'est un polar noir de chez Noir. C'est édité par un éditeur qu'on aime beaucoup ici, parce que le catalogue est très beau, c'est chez Rimini. Voilà, donc on est heureux de vous faire découvrir ce polar noir.
Merci énormément, merci beaucoup.
Pauline Lequesse, je ne sais pas si vous connaissez votre consoeur en cinéma et en premier film, en l'occurrence, pour vous, mais pas pour elle, c'est Karine Tardieu. Elle a signé L'attachement qu'on a énormément aimé cette année avec la formidable Valeria Bruni Tedeschi dans un rôle d'une âpreté où elle est pas aimable et elle y réussit merveilleusement bien parce que c'était évidemment une très grande actrice. C'est chez Diafana et le film vaut vraiment la peine d'être vu.
Merci,
ou revu.
Je l'ai pas vu en
fait. Plus.
Tant mieux.
Très beau contre-performance de Valeria.
Oui. Ah non, mais c'est magnifique, c'est un rôle magnifique. Retenu. Et puis, pour vous, Théodore Pellerin, on a forcément pensé à Frank Sinatra. et c'est avec un film qu'on connaît pas trop, qui n'est pas le plus connu de sa filmographie, mais qui s'appelle Le Hold-up du siècle. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est juste l'histoire du Queen Mary, le paquebot, qui est pris en otage par des brigands qui le prennent en otage avec un sous-marin. Donc, c'est n'importe quoi. Et c'est magnifique. De ce point de vue-là, c'est magnifique. Là aussi, c'est chez Rimini. Et il y a en plus, s'il vous plaît, Virna Lisi au casting.
Incroyable, merci.
Laquelle exhibe cette reine dans La Reine Margot.
Nous en reparlerons bientôt.
Ouais. Merci beaucoup, vraiment, à tous les quatre. Merci, Pauline Loquès. Et merci à votre acteur aussi pour ce film Nino qui sort mercredi. Merci aussi, grand bravo, Nadav Lapid, pour ce film Yes ou Oui. Et en hébreu, ça s'appelle comment ?
Ken.
Et merci Naama Price. Merci à notre belle équipe, Valérie Aestaray à la réalisation, Benjamin Ducier à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale.
Merci à eux.
Au revoir.
Salut.